Au quartier Axio, réfléchis avec vous au problème de l'étudiant congolais. Des campus de Kinshasa à l'UNILU en passant par l'UNIPIS et toutes les universités ainsi que supérieures du pays, les étudiants s'expriment en toute liberté. Le rendez-vous de l'enseignement supérieur en République démocratique du Congo est tous les mercredis dans Okapi Action à partir de 10h heure de Kinshasa.
Le jeudi dernier, certains étudiants de l'Institut National des Arts sont descendus dans la rue pour manifester contre la hausse des frais académiques. Selon eux, ils doivent payer 190 dollars pour les classes de recrutement et 220 dollars pour les classes montantes. Seuls les étudiants ayant payé les frais ont droit au cours. Ce mouvement des étudiants est également observé dans certaines institutions privées, notamment à l'Université Simon Kimbangu. Que faire pour permettre le bon déroulement de cette année académique et surtout pour préserver la paix sociale? Nous en parlons tout à l'heure avec nos invités. Pour l'instant, nous faisons le point avec Berry Franklin Lutchaka. Berry, bonjour.
Bonjour, Jenny.
Comment se présente la nomenclature des frais académiques tels que fixés par le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire?
En fait, les frais académiques s'élèvent à 100 dollars pour les classes de recrutement et 80 dollars pour les classes montantes dans toutes les institutions académiques de l'État. Cependant, à l'INA, l'Institut national des arts, comme c'est une institution technique, il y a plusieurs frais connexes qui font que le coût ne soit pas tel qu'exigé par le ministère.
Et quand on parle de frais connexes, de quoi s'agit-il exactement?
Bon, les frais connexes, c'est par exemple les frais de construction, les frais d'enterrement de diplôme, etc.
Ouais, et il faut mettre ça à la charge, souvent on met cela à la charge des étudiants.
Bien sûr.
Voilà. Et
c'est ce qui a fait d'ailleurs que les étudiants puissent se marcher.
Ok, alors qu'est-ce qui a poussé les étudiants de l'INA dans la rue le jeudi 8 janvier dernier? C'est seulement cette histoire des frais connexes?
Bien sûr, je dis, parce que d'après certains étudiants, ils protestent contre la hausse des frais académiques en général.
Oui.
Au lieu de 80 dollars pour les classes montantes, les étudiants sont obligés de payer 220 dollars pour les classes terminales, c'est-à-dire 3e graduat et 2e licence. Les étudiants de 1e graduat doivent payer 190 dollars et ceux de 2e graduat doivent payer 170 dollars. Et le directeur général de l'Institut national des arts nous a donné plus de précisions sur cette fixation des frais académiques. Je vous prie de le suivre.
En fait, nous n'avons pas augmenté les frais académiques. C'est la même chose que l'année passée, sauf que cette année-ci, il y a des petits détails tels que construction. C'est la première fois que l'INA fait ça. L'INA, avec ses nombreux étudiants, nous sommes dans un hôtel. Vous avez déjà vu comment les choses se passent ici. Les cours se donnent dans des couloirs, il n'y a pas d'auditoire. Et nous voulons construire un hangar en bas. Les frais d'enterrement des diplômes, avant, ils les payaient séparément. Mais nous avons décidé que ces frais soient inclus dans la totalité des frais fixés à l'Institut national des arts. Car cela ne tient. Le total pour les nouveaux, c'est 190. Les classes terminales, parce qu'il y a beaucoup de frais. La professionnalisation, c'est 40, parce qu'ils doivent faire des stages. Les gens qui les suivent en stage doivent être payés. C'est pour ça que c'est fixé à 40. Ça, c'est depuis toujours. Il y a, par exemple, l'enterrement, c'est 25 dollars. C'est l'argent qui est envoyé à la commission qui s'occupe de l'enterrement. C'est-à-dire que le ministère, et nous sommes le seul établissement de l'enseignement supérieur de Kinshasa qui ait accepté les étudiants jusqu'au mois de janvier sans exiger un quelconque paiement. Il faudrait que les étudiants payent parce que c'est décidé comme ça. C'est lui qui est venu prendre son instruction à l'INA et était au courant de tout cela. Mais je voudrais rappeler ici que nous sommes les plus bas de tous les établissements d'enseignement supérieur.
Voilà, si je comprends bien, ce sont les frais connexes qui posent problème.
Oui.
Est-ce que les autorités académiques avaient pris le temps d'expliquer aux étudiants c'est à quoi ils doivent s'attendre?
Bien sûr, je le dis, parce que selon le directeur général de l'INA, le communiqué a été fixé au panneau d'affichage de l'Institut. Et tous les étudiants sont conscients de cela. Mais lorsque nous avons approché les étudiants de cette institution artistique, c'était une autre version. Je ne ferai pas des commentaires. Suivez ces étudiantes qui parlent même des conditions dans lesquelles elles étudient.
C'était pour le programme de hausse de prix des frais académiques.
Aujourd'hui, les frais reviennent à combien?
À 220 dollars pour la troisième année, graduée et puis deuxième licence.
L'année passée, c'était à combien?
165 dollars. En tout cas, leurs raisons ne sont pas valables.
Qu'est-ce qu'ils avancent comme raison?
Les frais de construction, le frais des cartes d'étudiants. Il y a d'autres frais là. Au moment où La classe de 3e gradua n'a pas de tutoir, on étudie sur le couloir. Avec trop de dérangements, tout ça, on ne sait même pas qu'est-ce qu'ils sont en train de penser pour hausser le prix. Il n'y a pas de raison valable. C'est le prix de faire l'académie. Puisqu'on paye plus que ceux du premier stagiaire, du deuxième cadet, de licence et de préparatoire. Et puis, à part ça, nous avons des activités à faire, nous avons des services à payer, nous avons des stages, des directeurs de travail de fin de cycle, tout ça. Ça nous coûte beaucoup d'argent. C'est pas vraiment normal.
Comme nous, les étudiants de troisième année, gardien, on étudie dans les couloirs. Et il y a des dérangements. Il y a plusieurs personnes passent, donc il y a vraiment des dérangements. On n'utilise pas dans des conditions normales. Et il n'y a même pas de place, les écritoires, pour se mettre. Il peut y avoir pas plus de 50 écritoires, mais nous sommes plus de 200 étudiants. En tout cas, c'est vraiment difficile. Il faut arriver ici à l'INA, même à 7h, 1h du temps avant les cours, pour avoir la paix au cours. Donc il n'y a pas de sonorisation, donc il n'y a rien.
Donc, on a suivi ces étudiantes qui dénoncent
déplorent
les mauvaises conditions dans lesquelles
elles étudient.
Donc, ça veut dire qu'elles donnent raison un peu au comité de gestion qui a augmenté les frais parce que cet argent va servir, n'est-ce pas, à les mettre dans les bonnes conditions.
Bon, quelque part, on peut dire oui, mais en réalité, ils ne voient rien parce qu'on ne m'a même pas montré là où on va construire le hangar en question dont on fait allusion.
Ok. Alors, on fera le point tout à l'heure avec nos invités. Vous êtes étudiant à l'INA ou ailleurs, vous pouvez réagir. Appelez-nous 081-890-63-94 pour poser vos questions. Vous avez également la possibilité de nous écrire à l'adresse action@radiocapi.net. Alors, Véry, on signale des mouvements des étudiants dans d'autres institutions privées. Est-ce que vous confirmez cela?
Bien sûr, je dis. Et il s'agit aussi toujours des frais académiques. Tout récemment, les étudiants de dernière année en médecine de l'Université Simon Kimbangu sont descendus dans la rue. Ils auraient même agressé quelques membres du comité de gestion pour avoir réduit les frais académiques à $350, s'il vous plaît. Nous avons rencontré le recteur de l'université en question. Il nous parle plutôt d'un malentendu. Je vous prie de le suivre.
Nous sommes... Il y a eu, en quelque sorte, une incompréhension entre le comité de gestion et les étudiants finalistes qui étaient en stage interné à l'hôpital général de référence ex-Mamayemo. Ces étudiants ont prétendu dire que voilà, le Minerva de notre institution est passé de $200 à $500. Ils sont sortis de la rue, ils sont venus agresser certaines autorités académiques ici, ils ont créé des désordres, il y a eu pratiquement 3 jours de suspension des cours. Mais en vérité, le Minerva ici n'a jamais atteint $500. Lorsque l'université a été créée en 1994, le Minerva était de $250. Nous sommes restés à $250 pendant 10 ans jusqu'en 2004. Avec la situation comme elle évolue, nous sommes passés en 2005 à $300. Et en 2008, nous avons réajusté à $350 pour ceux qui font la faculté de médecine, mais $300 pour ceux qui font les autres facultés, $400 pour les étudiants étrangers. Donc, en vérité, pour nous, les étudiants congolais de l'Université Simon Kimbangu, le Minerval est de $350. Et nous venons de commencer seulement avec ce montant cette année.
Voilà, est-ce que Berry et les étudiants partagent cet avis?
Bon, pour les étudiants de l'université Simon Kimbangu, $350 pèse lourd sur le budget familial. Voilà pourquoi ils ne jurent que par le départ du comité de gestion, parce que malgré la hausse de ses frais académiques, ils ne constatent rien de concret. Nous pouvons les écouter.
Oui, les revendications que nos aînés ont faites sont vraiment fondées, parce que ils sont d'abord... À la fin de leur cycle, ils ont des travaux de mémoire à présenter avec ce prêt. Vraiment, ils avaient droit à faire ces revendications. Le $350, vraiment, c'est quelque chose qui nous pèse vraiment dans la tête. Parce que nous avons toutes sortes de choses à faire. Il faut acheter les syllabus, il faut acheter le TP, il faut payer les transports aussi, les frais de stage, tout ça. Plus de $350, vous voyez, c'est vraiment beaucoup.
Mon souhait serait que, bon, nous, c'était plus un peu, c'est mettre avec nos aînés, discuter aussi, et essayer un peu de rabattre les montants. C'est ça notre souhait.
Pour moi, c'est pas ajouter que la meilleure solution qui est les comités, je peux suivre par.
L'année passée, ils avaient d'abord un budget de 750. Le poulet, c'était 300. Il n'y a plus un 126. Nous faisons rien qui va changer de signe. Cette année encore, le col va changer encore, c'est 450, c'est trop. En principe, nous voulons que les comités de gestion ne soient pas pire, parce qu'on en a marre de ce poulet, ceci de l'État.
Voilà, les étudiants qui déplorent la hausse des frais académiques, ils exigent, ils demandent clairement le départ du comité de gestion. Et nous savons que généralement, les membres du comité de gestion sont souvent accusés de malversations et autres. Mais on pourra peut-être y revenir prochainement, mais on s'arrête là avec vous, le temps de donner la parole à notre invité qui est déjà en ligne, le ministre Macha Komamba, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Mais on s'arrête là avec vous aujourd'hui. Merci et à la prochaine.
À la prochaine jeudi.
Voilà, monsieur le ministre Macha Komamba, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous avons suivi le reportage de notre confrère Berry. Nous apprenons que dans certains établissements d'enseignement supérieur universitaire à travers la ville, il y a des mouvements des étudiants qui marchent, qui protestent contre l'augmentation des frais académiques. Est-ce que vous êtes au courant de cette situation?
Je suis au courant et je pense que une partie des revendications des étudiants est fondée parce que au début de chaque année académique, il y a une directive qu'on appelle l'instruction académique qui comprend le ministre en charge du secteur et qui a fixé les taux des frais pour les classes montantes à 80$ et les classes de recrutement à 100$. Mais il est prévu, et ça c'est le deuxième élément le plus important, le partenariat qui est une structure que l'État reconnaît, qui permet autour de la même table de voir le comité de gestion, les représentants du corps académique, du corps scientifique, des techniciens, des ouvriers et la coordination des étudiants pour pouvoir discuter et arrêter le montant qui pourrait être demandé en plus. Je suis heureux de voir que certains établissements d'enseignement supérieur universitaire, tant public que privé, utilisent ce mode que l'État reconnaît et ils parviennent à trouver un compromis et généralement les choses se passent bien. Mais dans d'autres établissements, les autorités décident sans cette concertation et ça nous amène à des situations comme celle que vous avez si bien décrite au niveau de l'Institut National des Arts.
Oui, alors nous avons appris, le DG de cet établissement a expliqué la raison, c'est que il y a d'autres, aujourd'hui les étudiants de cet établissement étudient dans des conditions difficiles, l'établissement fonctionne dans un hôtel, il n'y a pas assez d'espace, certains étudiants suivent le cours même dans des corridors, couloirs, alors d'où ils justifient cela, il faut augmenter un peu les frais connexes pour permettre d'entreprendre certains travaux. Est-ce qu'il faut être incriminé pour cela?
Mais je voudrais vous dire que le gouvernement doit réglementer les frais connexes parce que autant certains responsables prennent des frais connexes et on voit ce qu'ils en font. Je peux vous citer le cas de l'ISAM où on voit qu'on a pris des frais connexes, on voit les bâtiments qui ont été construits, des équipements achetés. Il y a d'autres établissements et les audits que nous sommes en train de mener nous le montrent. Ils prennent de l'argent. Mais si vous dites ont construit, demandez là où ils ont construit, qu'ils vous le montrent. J'ai visité l'Institut National des Arts, je pense qu'il y a vraiment là des problèmes réels. C'est vrai qu'il fonctionne dans un endroit qui n'est pas approprié, mais je me demande aussi si le peu qu'ils reçoivent, s'ils l'utilisent correctement. C'est pour cela que le gouvernement, dans le cadre de rétablissement de l'autorité de l'État, doit absolument, à travers le ministère de l'enseignement supérieur, réglementer ces frais connexes qui, dans certains cas, peuvent être une solution, mais dans beaucoup de cas, je pense qu'il y a beaucoup de mauvaises utilisations et donc il ne faudrait pas que les familles continuent à peut-être être saignées si cet argent ne sert pas à améliorer les conditions d'études de leurs enfants.
Oui, monsieur le ministre, si par exemple ces établissements recevaient des subventions de l'État et s'ils étaient subventionnés par l'État, peut-être que tout cela n'arriverait pas aujourd'hui. Est-ce que vous, dans votre plan d'action, vous avez également pensé à cela, à subventionner les établissements d'enseignement supérieur et universitaire?
Alors, je voudrais vous rappeler que, et je l'ai dit souvent aux dirigeants des établissements publics, généralement ils ont les bâtiments de l'État, ceux qui n'ont pas les privés, qui organisent les mêmes formations, ils sont payés, le corps et académique, scientifique et autres est payé, ce qui n'est pas le cas chez le privé. Et c'est vrai que les études universitaires coûtent très cher. Il n'y a aucun pays au monde où les études sont prises en charge à 100% par l'État. Et c'est pour cela qu'il est important qu'on puisse réglementer ces frais connexes. C'est un domaine où il y a beaucoup d'anarchie. Je peux vous dire qu'il y a plus de 100 taxes de, qu'on appelle frais connexes. Et si justement l'État ne regarde pas de très près et parvient à mettre des règles pour ces frais connexes, je pense que nous allons aller de blocage en blocage. Autant nous devons nous battre, nous nous battons pour que les établissements puissent avoir des frais de fonctionnement, mais autant aussi nous ne souhaitons pas qu'on transforme les étudiants en machines de production d'argent et de l'argent mal utilisé généralement. Et donc à ce moment-là, en fait, l'État doit veiller sur aussi le droit des familles et des étudiants. Mmh. Et cela ne peut se faire que dans le cadre du partenariat que dans certains établissements on a mis de côté pour en fait décider seul. Cet organisme, je peux vous dire que ce matin je viens de recevoir un document de l'Académie des Beaux-Arts qui nous montre qu'on a mis tout le monde autour de la table, oui. Ils ont arrêté les montants et ce montant ne pose pas de problème. À l'IBTP, là aussi, maintenant, on vient de revoir les taux qu'on avait augmentés unilatéralement, et là aussi, je pense qu'on a créé le conseil du fait social. Donc, beaucoup, beaucoup de choses arrivent parce qu'on ne veut pas tenir compte des instructions qui existent ou de mécanismes qui ont été suggérés et autorisés pour trouver des solutions localement.
Donc, si je comprends bien, la solution, par exemple, à ce qui se passe à l'INA, c'est que le comité de gestion devrait se réunir de nouveau avec le représentant des parents et des étudiants pour revoir à la baisse ses frais.
C'est ce qu'on appelle le partenariat et les autorités savent que ce mécanisme est prévu et reconnu et autorisé par l'État. Mais si on veut décider unilatéralement, à ce moment-là, en fait, on crée soi-même, on viole d'abord les instructions qui viennent du ministère et on crée des conditions de perturbation de la paix sociale. Ce qui vient de se faire à l'Académie des Beaux-Arts, ce qui se fait à l'ISAM, ce qui se fait à l'IBTP, pourquoi l'INA ne peut pas l'appliquer? Parce qu'il ne faut pas toujours penser que c'est le ministre qui doit descendre. Le comité de gestion doit trouver la plupart des solutions localement et pas toujours, en fait, se défiler de responsabilité et toujours dire allons vers le ministère. L'État a prévu des mécanismes pour trouver des réponses appropriées.
Alors, monsieur le ministre, est-ce que vous avez, vous organisez souvent, est-ce qu'il est prévu dans le règlement académique que chaque fois le ministère descend au niveau des établissements pour faire un contrôle, je sais pas, peut-être après chaque trois mois, est-ce qu'il y a des mécanismes dans ce sens-là?
Bon, nous, il peut vous le confirmer, à travers le document qu'on appelle le VADMECOM, il y a toute une série de rapports intermédiaires qui doivent être faits. Et dans le cas d'espèce, il y a actuellement un audit que le ministère vient de diligenter là-bas, qui nous montre justement qu'il y a des problèmes parce que le dialogue n'est pas le dialogue tel qu'il est prévu dans le partenariat. Et je pense que le conseil à donner, c'est que tout le monde se mette autour de la même table et ne pas attendre que le ministre entre dans la danse, parce que quand il va entrer dans la danse, on va encore croire qu'on est là pour sanctionner tel ou tel. Il y a des mécanismes pour trouver les réponses appropriées et je conseille au comité de gestion d'utiliser ce mécanisme.
Et, monsieur le ministre, nous avons suivi dernièrement, vous avez entrepris une tournée à travers les établissements d'enseignement supérieur universitaire de la place et après votre passage, il y a eu des sanctions qui sont tombées. Certains comités de gestion ont été suspendus et remplacés, d'autres remplacés carrément. Qu'est-ce qui est à la base de tout ça? C'est toujours la malversation? Il y a eu beaucoup de problèmes dans ces établissements?
Bah, je pense qu'il y a le fait que beaucoup de comités oublient en fait plusieurs des établissements de l'État. L'État qui les a installés, l'État est défié tous les jours. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la mauvaise gestion généralisée, avec beaucoup d'antivaleurs. Nous n'allons pas construire notre pays si les formateurs, justement, ne se rappellent pas qu'il y a l'État, qu'il y a le droit à une formation de qualité, et quand il y a des ressources qui sont générées avec l'autorisation de l'État, que ce frais soit géré correctement et qu'on sache qu'à tout moment on peut contrôler l'utilisation de ce frais. Et c'est ce qui est en train d'être fait actuellement. Le procès est en cours, il va continuer. Et les mesures qui s'imposent en termes de sanctions positives négatives vont découler de ce travail important qui est en train d'être fait.
Alors, la tournée continue. Vous continuez votre tournée à travers les établissements.
Au moment où vous m'appelez, je suis aussi en tournée.
Ah, vous êtes en tournée. Et dans les provinces, comment se présente votre planning, votre programme?
Bon, je pense qu'on a déjà été au Katanga, dans le Kivu. Bientôt, le premier trimestre, si on va visiter au moins 4 provinces. Toujours pour aller, non seulement rappeler les directives, donner les conseils, mais le cas échéant aussi sanctionné, parce que vous avez vu qu'on avait sanctionné au niveau de l'ISTEM Bukavu, parce qu'on a vu des choses incroyables,
oui.
Et on ne peut pas accepter que les établissements d'enseignement supérieur soient pris en otage par des individus qui finalement confondent un bien privé et un bien public.
Voilà, et nous avons également suivi que dans un établissement privé, Simon Kimbangu, il y a eu également des mouvements de décision qui déplorent l'augmentation des frais académiques de 300 à 350 dollars. Est-ce que vous avez aussi un œil sur les établissements privés en ce qui concerne la fixation des frais académiques?
Les établissements privés aussi reçoivent du gouvernement l'autorisation de fonctionner. Le gouvernement peut toujours leur retirer aussi cet agrément. Et le principe de partenariat doit être un principe qui s'impose à tout le monde. Parce que si on veut, et c'est malheureusement la tendance maintenant, transformer les établissements d'enseignement supérieur universitaire, tant public et privé, comme va chaler pour certaines personnes, ça devient une source d'enrichissement. C'est comme ça qu'on a vu presque partout. Où on a créé le cours du jour et le cours du soir à l'insumène du gouvernement, qu'on a créé une multitude de frais collectés, plus d'une centaine, qu'on ne déclare même pas les étudiants étrangers qui sont soumis à d'autres conditions que les étudiants congolais. Bref, tant chez les publics que chez les privés, on est en train de découvrir ce qui marche et surtout ce qui ne marche pas, de façon à ne pas rappeler que l'État a l'obligation de réglementer le secteur, c'est l'État qui reconnaît les diplômes, et donc petit à petit nous sommes en train de tâter le pouls de la situation, et nous espérons que nous pourrons être en mesure, au fur et à mesure que nous avançons, de ramener tout le monde au respect des textes qui régissent le secteur.
Oui, Monsieur Mashako Mamba, vous êtes le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Nous avons beaucoup de réactions dans ce studio. Il y a un étudiant qui nous écrit, Nimandaka, il dit, nous disons au ministre que le même constat est fait même ici à Mandaka. On nous impose de payer 190 dollars. Est-ce que c'est légal?
Non, je viens de dire, il y a des frais officiels qui sont dans les instructions académiques que le ministre a pris début octobre. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il est prévu ce qu'on appelle le partenariat. C'est-à-dire, c'est autour de la table voir le comité de gestion, les délégués des différents corps, y compris la coordination des étudiants. C'est là où, en fait, doit se discuter les frais en fonction des objectifs qui s'assignent le comité de gestion et qui doivent avoir, en fait, le consensus. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'on demande de l'argent sans pouvoir savoir à quoi va servir cet argent. Et c'est pour mieux équiper le laboratoire, c'est pour mieux équiper les bibliothèques, et c'est pour améliorer le confort des étudiants dans les auditoires, etc. C'est tous ces éléments-là, en fait, qui doivent pouvoir justifier ces frais connexes.
Oui.
Si on ne tient pas compte de cela, je peux vous dire que Mandaka, nous avons envoyé l'audit, on a les éléments de l'audit de Mandaka, donc le moment voulu et le moment venu, nous allons certainement les exploiter, et soyez rassurés que tous ces éléments nous en tenons compte.
Oui, monsieur le ministre, il y a trop de frais connexes, nous dit un autre étudiant, car le ministère de l'enseignement supérieur laisse tous les différents comités de gestion régner en maître. Donc le gouvernement, le ministère de l'ESU ne fait pas de suivi. Et un autre étudiant qui dit, il nous écrit de Kindu, il dit, le ministre peut nous dire à combien le gouvernement fixe les frais académiques pour l'année prochaine. Ensuite, que pense le gouvernement par rapport à la question de la bourse 2007-2008?
Non, je pense que je viens de le dire, les instructions pour la rentrée académique 2008-2009 ont été fixées et transmises à tous les instituteurs d'enseignement supérieur universitaire dans l'ensemble du pays. Et donc là aussi, ça montre un manque de communication entre les autorités qui gèrent des institutions et la coordination des étudiants. Deuxièmement, le problème de bourse, il y a des arrières de 4 mois pour l'année académique qui vient de se terminer. Et je pense que le processus administratif a été achevé avec le ministère de budget et des finances. Et donc, on est à la phase maintenant de la liquidation. Donc, c'est un problème que nous considérons comme en voie, en très bonne voie, en ce qui concerne en fait l'affirmation des arriérés de 4 mois de bourse pour l'année académique écoulée. Et il est trop tôt maintenant pour qu'on puisse parler de ça pour l'année qui suit, parce qu'il faut d'abord qu'on voit comment se déroule l'année académique 2008-2009. Et donc, au niveau du ministère, on est très attentif avec l'appui du chef de l'État et du Premier ministre. Nous pensons que progressivement, nous sommes en train de suivre de près, de faire le diagnostic pour nous permettre de faire des interventions qui sont ciblées et qui soient dans le sens de la réaffirmation de la reprise en main de l'État. Parce qu'effectivement, beaucoup d'établissements sont gérés comme des biens privés et ce n'est pas ça la vision du gouvernement et du ministère.
Oui, Maché Komamba, il y a un autre étudiant qui dit je félicite le ministre de l'enseignement supérieur pour toutes les mesures qu'il est en train de prendre, donc la suspension des responsables des certains responsables des établissements de certaines universités, certains établissements universitaires de la République. Et puis enfin, il y a une réaction qui nous vient de Kisangani, et c'est signé Jean-Léon Baza. Il dit pourquoi le taux de Bunyaval diffère d'une université à une autre et d'une province à une autre.
Oui, non. Le taux peut varier dans la mesure, comme je vous ai dit, c'est pour cela que le mot partenariat qui a été vraiment consacré permet à ce que en fait, chaque comité de gestion montre son plan d'action, les objectifs qu'il s'assigne, et je pense certain que ça doit dépendre du consensus qui se dégage sur ce plan d'action. Si quelqu'un dit qu'il va construire, on sait qu'un à deux il a plus de l'argent, ils n'ont jamais construit, je pense que maintenant on peut dire non, ne nous augmente pas tel seul parce que la réalité nous avons vu qu'elle n'était pas celle-là. Et c'est ce que le ministère progressivement est en train de vérifier. Et je peux vous dire que là où on a prélevé de l'argent et que nous voyons que cet argent n'a pas servi au motif qui a été invoqué, l'État va rappeler à ses gestionnaires que c'est lui l'État et qu'il ne peut pas accepter qu'on continue à prendre les familles et les étudiants en otage dans des cas où il n'y a pas eu concertation.
Oui, monsieur le ministre, parlons aussi de certains prêts qui sont exigés aux étudiants, par exemple les frais des dépôts des mémoires, et certains frais par rapport aux travaux de fin de cycle. Est-ce que c'est autorisé dans le règlement académique ou c'est chaque établissement qui fait à sa façon?
Oui, c'est pour ça que je vous ai dit qu'on vient de découvrir qu'il y a trop de frais connexes. Nous sommes en train de faire l'état des lieux. Il y a nécessité de pouvoir réglementer ça parce que finalement les étudiants se transformaient en vaches à lait et je pense laissez-nous le temps de faire le point et de pouvoir donner de réglementer ce secteur.
Oui, monsieur le ministre, on va vous laisser combien de temps? On peut vous recontacter après combien de temps pour parler encore de cette question?
Non, je pense que j'ai toujours été attentif et au partenariat avec la presse. Nous travaillons à ciel ouvert. Je pense que nous avons suffisamment avancé et nous pourrons être en mesure dans les semaines qui viennent à donner l'orientation dans laquelle nous voulons amener toutes ces actions pour non seulement vers ce qui est une participation des parents, parce que les études coûtent cher,
ouais,
mais que nous veillons aussi à ce que ce qui est prélevé soit sur base du partenariat et que réellement ça serve aux objectifs pour lesquels ça peut être sollicité.
Oui, monsieur le ministre, nous pensons que si tout cela arrive, c'est parce que quelque part aussi, ces établissements ne sont pas subventionnés par l'État. Alors, par exemple, pour le budget 2009, quelle est la part qui est réservée à l'enseignement dans notre pays? Parce que ça, c'est également un problème.
Vous savez, vous pouvez être subventionné et quand même mal géré. Donc, je pense qu'il ne faut pas qu'on inverse les choses. Il faut d'abord que nous puissions savoir que nous gérons un bien public, que nous avons pris des engagements vis-à-vis de la nation et des familles, et de savoir si tout ce qu'on peut, le peu que l'on a, si on l'a utilisé dans le respect de ces engagements-là. Je pense que ça devient plus un problème éthique et moral plutôt que la masse d'argent qui peuvent entrer ici et là. Il y a des institutions privées qui n'ont rien, qui viennent de l'État, mais qui nous montrent que ce qu'ils ont prélevé est correct. Et là, on a des gens qui ont des bâtiments de l'État, qui ont des salaires venant de l'État, et même des équipements qui viennent de l'État. Mais vous arrivez six mois après, les équipements qu'on a donnés à tel ou tel endroit ont disparu. Donc ce n'est pas un problème nécessairement de subvention. Nous nous battons pour la subvention, mais nous connaissons notre société. Notre société a besoin d'être moralisée. Notre société a besoin qu'il y ait des sanctions positives et des sanctions négatives et que l'État réellement affirme qu'il est là pour l'intérêt général, pas pour l'intérêt des individus.
Monsieur le ministre Masako Mamba, nous vous disons merci d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission. Nous rappelons encore que vous êtes le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Merci d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission et on vous retrouve peut-être prochainement.
Merci beaucoup.